va parler maintenant d'un thème assez nouveau, enfin, il y a quelques années, et assez compliqué, en fait, qui soulève pas mal de questions, qui est, en gros, des relations que commencent à nouer deux mondes qui, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, avaient l'air vraiment totalement hétérogènes, voire totalement antagonistes, qui est donc le monde du travail, au sens large, c'est-à-dire entreprise, mais aussi administration, ONG partout, où des groupes de gens travaillent ensemble, besognent, avec des contraintes fortes de production, ou de délais, et un monde de la philosophie, qui a la réputation d'être délié des contraintes temporelles et contingentes, et de pouvoir se livrer en toute liberté à une réflexion spéculative potentiellement pure, si vous voulez. Donc, évidemment, ça c'est une caricature, et on va vite se rendre compte que cette caricature ne tient plus très bien. Et donc, je vous présente la belle brochette d'intervenants qui réunit, en gros, à ma connaissance, un peu tous les gens qui sont concernés, qui travaillent dans cette... dans ce créneau-là. À votre droite, Bernard Schumacher, que vous avez déjà vu pour la plupart tout à l'heure, mais là qui va changer de casquette, comme co-fondateur, responsable de la cure de philosophie pour cadres à l'Université de Fribourg. Ensuite, François Chalère, qui est directeur de l'AGFI, qui a aussi une formation en philosophie. Puis Philippe Clark, avec lequel nous avons cofondé il y a déjà à peu près 5 ans le projet Socrate. Donc, moi, je fonctionnerai plutôt comme modérateur et Philippe présentera plutôt la démarche. Et Jean-Eudes Arnoux, qui a monté
En octobre 2012.
Voilà, en octobre 2012, une activité de philo-consultant. Il va nous expliquer en quoi ça consiste. Et puis Lynn Pillet, que vous avez vu aussi tout à l'heure, rejointe par Tristan Chevroulet, qui sont les deux fondateurs de l'association Philosophie et Management Suisse, qui en fait, ils vous expliqueront, mais qui est très fortement connecté à ce dont va parler Bernard tout de suite. Je lui cède la parole.
Merci. Bonjour. Alors, l'Université de Fribourg, vous m'entendez?
Très bien.
Ça va? Merci. Ça marche? D'accord. Alors, on a un certain nombre de collègues, deux philosophes et un professeur RH à l'Université de Fribourg et un professeur d'éthique économique, entre autres. On s'est mis ensemble pour mettre sur pied ce que nous avons appelé une cure de philosophie pour cadres en 2004. Qu'est-ce que ça peut bien servir? Une cure de philosophie pour cadre, l'idée principale était, si vous voulez, d'approcher le monde du travail de manière un peu décalée. De manière décalée dans le sens d'une remise en question, d'une déstabilisation, de lever un peu le nez du guidon, avec un certain nombre de thèmes fondamentaux que l'on retrouve sur le lieu du travail. Et ces objets-là font l'objet de 8 fois 2 jours de formation. On a monté à 9 fois 2 jours de formation. Ce sont des cadres dont le plus jeune que nous avons eu avait 32 ans, jusqu'à 58 ans. Bref, moyenne d'âge, normalement, la quarantaine, 50 ans. La plupart ont eu énormément de formation, plutôt de type boîte à outils. Ce que nous avons pensé, c'était plutôt, si vous voulez, un questionnement sur ce que nous faisons régulièrement au travail. Par exemple, qu'est-ce que l'autre? Qu'est-ce que le temps? Qu'est-ce que le pouvoir? Qu'est-ce que le leadership? En relation avec la tradition philosophique, en passant de Platon, Aristote, Kant, Lévinas, Sartre ou d'autres. Mais pas seulement de la philosophie, il y a un souci, c'est celui de l'interdisciplinarité. C'est-à-dire, on fait intervenir un ancien juge, un poète, un sociologue. Mais le but est toujours de déstabiliser, de revoir les objets complètement différemment. Deuxième objet, c'est toujours une interaction entre la théorie et la pratique. En d'autres termes, c'est une envolée théorique et on revient systématiquement à des questions de terrain. Troisième objet, les participants, maximum 20, interagissent énormément entre eux et provenant d'horizons très différents. Alors, il y a quelques années, on a mené une petite enquête, parce que je dois être franc avec vous, au début, on ne savait pas dans quoi on s'engageait. On s'est dit, on y va, puis on verra bien. On n'avait aucun objectif. Et au fond, ça marchait. Et on s'est demandé pourquoi ça marchait. Et on a mis un étudiant, sur le coup, qui a fait un travail de master. Et qui a un peu interviewé un certain nombre de personnes, 60-70 personnes. Et sur ces 60-70 personnes, s'est dégagé un certain nombre de compétences de type managérial. Alors ces compétences, il y en a, je vais en nommer les quatre qui sont remontées et qui sont propres de la philosophie aussi. Le premier est l'introspection. C'est-à-dire que les participants ont senti, après une année de formation, il ne s'agit pas d'un event. C'est autre chose sur lequel j'aimerais juste souligner, il ne s'agit pas d'un event, mais on revient systématiquement toutes les 4, 5 ou 6 semaines pour 2 jours, avec un travail qu'il faut faire, etc. Et donc, petit à petit, on prend l'habitude, une attitude, si vous voulez, de type de questionnement. Donc, le premier, c'est l'introspection. Donc, si vous voulez, la capacité de la connaissance de soi, de ses valeurs, de ses principes d'action. Et beaucoup ont dit qu'ils ont beaucoup gagné en confiance en soi, plus particulièrement aussi en gain en authenticité. Ce que fait la philosophie, c'est aussi une certaine introspection. Deuxième chose, c'est le cœur de la philosophie, entre autres, c'est la conceptualisation. Définition des termes. Nous utilisons non-stop des termes, mais nous ne savons pas nécessairement le contenu de ces objets. Donc, c'est définir les mots utilisés au travail. Et ils ont remarqué qu'à un moment donné, cette capacité de définition des termes leur permettait une meilleure formulation des objectifs ou de la communication quotidienne. Et on gagne en clarté et en simplicité. Troisième capacité, c'est la problématisation. On l'a déjà mentionné auparavant, c'est-à-dire le questionnement d'interroger de manière complètement nouvelle, sous un autre angle, sous une autre manière, les pratiques de mon environnement, la manière dont je fonctionne. Et la quatrième, c'est une meilleure écoute des autres. Une meilleure écoute des autres, empathie, le terme est venu très régulièrement, une meilleure compréhension, pas seulement de soi-même, c'est l'introspection, mais de la manière dont l'autre fonctionne, dans la manière dont l'autre priorise ses valeurs. Et d'une certaine manière, une plus grande efficacité dans les interactions. On était très surpris quand on a eu ça. Très, très heureux aussi, d'ailleurs. D'une certaine manière, c'est-à-dire que ces quatre compétences que l'on voit au niveau du management, qui a été d'ailleurs fait par mon collègue Éric Davoine, professeur de RH au département d'économie, c'est ces quatre compétences sur lesquelles on travaille régulièrement. Et nous, les philosophes, d'une certaine manière, ce sont aussi les compétences que nous travaillons. J'aimerais... Pour terminer, parce qu'on a pas mal de gens, je vais faire très vite. Il y a aussi, par rapport à la philosophie, qui permet une tradition de 2500 ans, avec des écoles de pensée très différentes, mais qui permet une prise de distance, et une prise de distance, nous disent les personnes, une prise de distance d'une nouvelle manière d'interroger concrètement la manière dont je fonctionne, dont je travaille, qu'on n'a pas nécessairement entendu auparavant. Qui permet aux personnes, d'une certaine manière, de réinterroger leur manière concrète. Alors, je terminerai simplement par le fait que certains, la grande majorité, disent que c'est vrai que c'est pas qu'ils vont aller être bergers à quelque part et puis commencer à réfléchir avec leurs bouquins et se retirer de la société. Bien au contraire, ils ne changent pas de travail. Ils restent sur le lieu de travail. Mais la manière dont ils abordent le quotidien est différent. Je termine là.
Merci, merci Bernard. On passe la parole, je ne sais pas comment...
J'aimerais juste dire deux mots pour faire le lien avec ce qu'a présenté Bernard, pour parler de l'origine de notre association suisse de philosophie et management. Donc, j'ai participé à la deuxième volée en 2005. J'ai une formation de philosophie, 15 ans de management. Et en 2005, donc, j'ai participé à la cure de philosophie pour cadre organisée par l'Université de Fribourg. Et c'était vraiment intéressant parce que grâce à ce parcours, j'ai compris le lien fort qu'il y a entre la philosophie et le monde du travail, en particulier le management. Et pour moi, cette cure de philosophie a été particulièrement cruciale parce que en 2005, je reprenais la direction d'une petite entreprise et j'avais en même temps l'opportunité, mais aussi le défi de repenser complètement l'organisation. Après la cure de philosophie, enfin dans le cadre de la cure de philosophie, eh bien, nous avons eu beaucoup de questions qui se sont posées avec les autres participants, et c'est ce qui nous a amené à mettre sur pied, à continuer le dialogue à travers une association. Alors pour parler de l'association, j'aimerais passer la parole à mon collègue Tristan Chevrolet, puisque c'est le cofondateur, et que aussi une autre chose intéressante, c'est que moi je suis philosophe, lui il est ingénieur. Donc c'est vraiment aussi notre souhait, c'est de pouvoir, dans nos spécificités, dans la spécificité de soit des philosophes, soit des managers qui côtoient ou qui sont dans notre association, de pouvoir vraiment faire ces liens, cette transdisciplinarité.
Merci Lynn. Voilà, cette association Philosophie et Management, elle a été créée suite à plusieurs éditions de la cure de philosophie sur le cadre de l'Université de Fribourg. Et puis j'ai eu la chance en fait de la valeur qui m'a forcé à faire plusieurs. J'ai fait une partie de l'étude post-grad à l'étranger qui a fait que je n'ai pas pu faire toutes les modules de la cure de philosophie. Et j'ai rencontré trois volets différentes. Et chaque fois, lors des volets, d'abord c'était passionnant, c'était différent. Il y avait une émulation du groupe qui était assez fascinante, mais chaque fois différente. C'était très intéressant. Et surtout, chaque fois les groupes disaient oui, eh ben, c'est fini, c'est dommage, on aimerait bien continuer à creuser la question, se revoir, donc pas juste se revoir autour d'une fondue, comme ça nous arrivait pour discuter, mais travailler. Alors j'ai cherché des gens avec qui on aurait des intérêts à créer quelque chose, et puis voilà, la discussion avec Lynn a tout de suite amené à on va faire quelque chose. Le quelque chose, c'est cette association qui est née en 2009, lors d'ailleurs du festival de philosophie. Donc ça montre aussi les synergies qu'il peut y avoir dans toutes ces manifestations de provenances différentes. Et puis nous avons une association maintenant qui a une trentaine de membres, principalement des gens de la pratique, beaucoup de la pratique managériale, mais la pratique managériale, c'est pas seulement le directeur du ministère national, c'est la personne qui est indépendante. C'est aussi d'ailleurs la personne qui gère une famille, parce que lors des cours de formation, j'ai travaillé un certain peu comme formateur, on prend comme exemple l'organisation d'une journée de ski. Il y a tout ce qu'il faut, tout ce qui est similaire à l'organisation d'un projet qui peut amener au développement d'un véhicule, par exemple. Donc, il n'y a pas de limite à la pratique managériale en soi. Donc, tous ces gens qui sont dans la pratique managériale, qui se posent des questions là-dessus, se sont rapprochés de l'association. On a une trentaine de membres cotisants. La difficulté qu'on a maintenant, je dois dire, c'est le renouveau. Les gens du management sont souvent des gens qui ont des sollicitations multiples. Donc, il faut que ça corresponde à leur demande précise. Et si c'est un petit peu à côté, bon, voilà, ce sera la prochaine fois. Alors on a eu des choses qui n'ont pas fonctionné comme voulu. Par exemple, on s'est dit on va organiser une formation qui va leur plaire. On a fait un appel à idées, on a soumis quelques idées. On a reçu un peu plus de la moitié des membres qui souhaitaient une formation précise, un jour précis. Mais finalement, lors de la réalisation de la prestation, il n'y a que deux personnes qui s'étaient inscrites. C'est Céline et moi ici présents. Et donc, voilà, on s'est dit c'est bien de vouloir être ouvert, de vouloir faire des choses ensemble, mais il y a une base critique à atteindre pour réaliser, pour être efficace. Voilà, donc vous avez compris que nous, contrairement à plusieurs des personnes qui sont exprimées ici, on ne va pas offrir de la philosophie, mais on sera demandeur de philosophie. Lors de la cure de philosophie pour cadre, les groupes qui avaient plus de succès, ce n'était pas forcément les managers qui nous expliquaient à quel point ils étaient éthiques dans leur démarche, c'était plutôt les philosophes qui étaient critiques, mais surtout qui nous aidaient à nous poser des questions, qui nous est passé à une dimension supplémentaire, dans le sens où dans le management, il y a toujours la question, il y a les acteurs, pour qui est-ce qu'on fait ça, pour qui est-ce qu'on fait un produit, ou pour qui est-ce qu'on fournit une prestation humanitaire. Après, quoi faire précisément pour répondre à ce besoin, et puis quand. Il y a ces trois choses, pour qui, quoi faire quand, qui, quoi, quand. Puis la philo arrive avec le pourquoi. Et puis, bien sûr qu'il y a des moments où le pourquoi, il ne faut pas le poser. Hein, on est toujours dans la question, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est urgent. Ben, quand on est dans l'urgent, l'important, il compte un peu moins. Mais en amont, c'est capital. Et donc, là, pour des philosophes, pour les gens du management, c'est beaucoup là qu'on le cherche. Alors arrive le deuxième problème, c'est que lorsque le philosophe se promène parmi les gens du management, ça va. Mais lorsque les gens du management s'approchent des philosophes, la première question des philosophes, c'est... Vous étudiez la philosophie où? Et si la personne n'a pas la bonne réponse, mais enfin, il est transparent, il n'existe plus, et donc il n'aura plus un grand apport de la part des philosophes. Voilà. Donc, les besoins que nous avons, il y a un besoin, je dirais, stratégique, c'est une formation de philosophes à l'ouverture, je dirais, à cette problématique du management. C'est la philosophie du travail, peut-être, mais philosophie de l'organisation de personne. Je veux dire, on n'est pas dans la philosophie politique, mais on n'est pas dans la philosophie personnelle non plus. Il y a un secteur au milieu qui est encore peu développé. Et puis, il y a des besoins concrets. C'est un besoin de dialogue avec des philosophes ouverts, curieux, joueurs. Voilà, c'est ça. Donc, voilà. Pas forcément des réponses du philosophe à la question du manager, mais plutôt le dialogue qui permet d'accompagner sur un chemin de décision, de préparation à l'anticipation des décisions. Les procédures, par exemple, que ce soit dans les entreprises ou dans le domaine des personnes, ça paraît casse-pied, mais en fait, quand on fait une procédure, on crée une loi. Et puis, il y a tout le problème de la légitimité, de la prise en compte des personnes, du fait qu'on suit la procédure ou pas selon les circonstances. Ça, c'est des choses qui sont capitales. Il faut les discuter, il faut les creuser. Voilà, je crois que j'ai dit l'essentiel. Je passe la parole au suivant.
Merci beaucoup à vous deux. Et merci pour cette expression de philosophe joueur qui me plaît beaucoup. Et je passe la parole donc à François Chalère qui va justement apporter quelques propositions sur philosophie au travail et philosophie du travail.
Oui, merci. Bonjour. Je suppose que si j'ai été invité à cette table non ronde aujourd'hui, c'est parce que j'ai une formation
micro.
C'est parce que j'ai une formation de philosophie. Je ne sais pas comment ça serait.
On va me déplacer pour
voilà, faire merci. Un micro. Voilà, merci.
On n'arrive pas à avoir un micro pour tout le monde.
Parce que j'ai une formation de philosophie, effectivement, j'ai d'autres formations d'ailleurs, mais je ne suis pas du tout économiste, contrairement à ce que les gens croient en général. Et j'ai fait des études de philosophie très banales à l'Université de Lausanne. Il en était question tout à l'heure. J'ai effectivement connu ces délicieuses caricatures que furent les Christophe de Muralt, Piguet. Et j'ai encore juste connu Schussler, effectivement, puisque son nom a été prononcé. Et j'ai fait des études de lettres, philosophie, histoire, théologie. J'ai fait 2 ans de sciences politiques. Je n'ai pas été jusqu'au bout. Et en fait, il n'y avait que l'anthropologie qui m'intéressait en SSP à l'époque. Et j'ai fait un mémoire de philosophie sur Wittgenstein, qui est la principale chose que je partage avec le conseiller d'État Maillard, Pierre Maillard, qui sera là tout à l'heure, qui a aussi fait un mémoire licence sur Wittgenstein. Et je ne me souviens pas de Wittgenstein dans tous les détails, et je pense que lui non plus. Le contenu de la philosophie ne nous hante pas tous les jours. En revanche, lorsqu'on en a parlé à quelques occasions, ce qu'on en a retiré, c'est que c'est une formidable école de pensée, et une formidable école de méthode, et une formidable approche vis-à-vis de l'ensemble des sciences humaines et vis-à-vis du monde en général. Ce que j'en retiens surtout, c'est que la philosophie en particulier et les sciences humaines en général sont une montagne de malentendus qui vient de ce que les termes sont employés dans des contextes chaque fois différents et que les termes ont une signification simplement différente et qu'on peut construire tous les concepts que l'on veut. Chaque fois qu'on est dans l'utilisation, le sens change et les malentendus se multiplient. Donc nous sommes confrontés à ce terrain mouvant là, et je pense que le travail est au centre de ce phénomène. Je précise que l'AGFI est un quotidien économique et financier. Il est très rare qu'un petit bassin de population comme la Suisse romande ait un quotidien économique et financier. C'est vraiment une exception à l'échelle du monde. Nous avons ce privilège-là. C'est une entreprise de 40 personnes que je dirige. Je suis le rédacteur en chef aussi et je suis sur l'édition tous les jours. Nous avons une demi-douzaine de magazines. Nous avons des actionnaires qui se situent dans un modèle un peu hybride entre actionnariat et mécénat. L'entreprise est déficitaire depuis 10 ans. Nous vivons dans un secteur qui est en train en fait de disparaître. Lorsqu'on me demande de parler de mon expérience économique, j'ai l'habitude de dire que dans la presse écrite papier, nous sommes dans la même situation que les entreprises hippomobiles, les entreprises de transport hippomobile en 1910, qui expliquaient des belles années, hein, des belles années économiquement parlant, qui expliquaient à leurs clients que les camions là qu'on voyait, c'était vraiment n'importe quoi, c'était pas fiable, ça faisait du bruit, ça pue, les routes sont pas faites pour ça, ça n'a pas d'avenir. La vraie garantie dans les transports, la vraie garantie, c'est le cheval, voilà. Ou bien alors dans la situation du théâtre, lorsque le cinéma a commencé à se répandre, à l'époque, il était entendu et clair que le théâtre allait complètement disparaître. En réalité, il en est resté quand même quelque chose, mais ce ne sont plus des entreprises prospères, ce sont des entreprises mécénées. Où ce sont des entreprises soutenues par des fonds publics et des collectivités publiques. Et l'AGFI est un journal qui passe pour être philosophique, un petit peu intellectualiste. Et moi, je passe pour un gros intello, à l'extérieur comme à l'intérieur. Et je peux vous dire que si j'expliquais à mon équipe qu'on allait faire une petite retraite philosophique ou qu'on allait consacrer certain temps à réfléchir à les questions philosophiques, je serais très très mal reçu parce qu'eux, ils ont l'impression que c'est tout le temps comme ça. Voilà. Pour les préliminaires, je pensais que cette table, en fait, serait consacrée à la philosophie du travail. J'ai compris que c'était consacré à la philosophie au travail. Ça ne me dérange pas. Je connais les cours de philosophie de réputation depuis que vous les avez créés avec Davoine et Debinsky aussi. Mm-hmm. Je crois qu'il y a Paul, toujours Debinsky.
Oui, oui. Patrice Marianne.
Voilà. Qui sont des économistes, donc c'est transdisciplinaire. Et je situe cela dans l'univers, disons, du consulting, du coaching. Je comprends tout à fait absolument que des entreprises aient besoin à un certain moment d'un regard extérieur, d'un coaching extérieur, d'interlocuteurs extérieurs qui incitent à réfléchir à ce qu'on fait, à réfléchir au sens des termes qu'on emploie, à réfléchir à l'éthique, à critiquer. J'ai adoré ce qui a été dit tout à l'heure, les managers qui sont convaincus qu'ils sont complètement dans l'éthique, à remettre en question tout et le contraire de tout. Je pense qu'il y a un grand besoin dans les entreprises, mais je ne pense pas que ça, en revanche, que ça ne concerne que le management. Je suis étonné qu'on assimile philosophie en entreprise avec management. Je pense que ça concerne tout le monde. Ça concerne l'ensemble du monde du travail. Et je pense qu'une des raisons de ce besoin, c'est l'absence quasi complète aujourd'hui d'une philosophie du travail, c'est-à-dire d'une tentative suffisamment importante et durable de donner un sens ou certains sens au travail dans le monde et surtout à l'époque à laquelle nous vivons et le travail en général. Le travail en général a tout un historique dans l'histoire de la philosophie, comme vous le savez. Et ça commence à Aristote et probablement avant, hein, probablement chez les Chinois avant. Et ça se poursuit jusqu'au 19e siècle où ça va atteindre une espèce d'apogée avec l'idéalisme allemand et surtout Marx. Donc surtout le matérialisme allemand qui a mis le travail, qui a mis la théorie du travail, le travail et le capital, la valeur travail, etc. au centre de toute la réflexion. Et à une époque où le travail a été réduit petit à petit au travail salarié, qui a été, pendant le XXe siècle, la réduction continuelle de la réflexion sur le travail. Et aujourd'hui, le concept, dans un pays comme la Suisse, typiquement, le concept est très clair. On parle des travailleurs, même dans l'administration fédérale et dans le droit suisse, des questions des travailleurs, et c'est toujours le travail salarié. Et je propose une réflexion sur le sens du travail à partir de certains paradoxes, à partir de certains malentendus, et j'en resterai là, pour montrer à quel point le travail est central dans toute notre réflexion du monde. C'est ce qu'on appelle la centralité du travail. C'est un des thèmes à la mode autour du travail. Le travail est considéré aujourd'hui, en un certain sens, comme dirait Wittgenstein, comme un bien de première nécessité. Tout le monde a droit au travail, c'est revendiqué. Et en même temps, on interdit dans un pays comme la France de travailler plus de 35 heures, apparemment pour pouvoir répartir le travail. Et en même temps, il y a des gens qui travaillent des 70 heures par semaine, qui n'ont jamais de vacances, qui peuvent être des artistes, des sportifs, des grands managers, etc., et qui ne revendiquent rien du tout et qui n'ont pas du tout l'impression, quand on les interroge, de travailler. Donc une clarification sur la notion de travail, je trouve, s'impose avant toute chose dans ce domaine. Et pour prendre un sujet d'actualité et très sensible, je vous invite à réfléchir aux raisons pour lesquelles on s'indigne, par exemple, des très hauts salaires dans un pays comme la Suisse, mais dans toute l'Europe.
Excusez-moi, M. Charrier, mais je suis obligé de vous couper, mais
voilà.
On n'a pas beaucoup de temps.
Alors,
c'est avec la salle. Voilà, c'est vraiment important. Pour
ça se termine dans 30 secondes, si vous permettez. Je terminerai avec ça. Réfléchir à l'indignation que provoquent les très hauts salaires des managers dans des entreprises, disons, comme Novartis ou comme UBS, et l'absence d'indignation que provoquent les salaires encore bien plus élevés des entrepreneurs, des investisseurs et des entrepreneurs, genre Bill Gates et bien d'autres, ou les gens qui gagnent à la loterie, à l'euro-million en Europe, en Valaisan a gagné 120 millions la semaine dernière, ou il y a 15 jours, ça n'a scandalisé personne, ou les gens qui gagnent encore bien plus d'argent dans le divertissement, la musique, le cinéma et évidemment le sport. Et lorsqu'on on demande aux gens pourquoi il y a une telle différence dans la réception, les gens disent mais c'est pas du travail, c'est autre chose. Donc en fait, dans la question des très hauts salaires, ce qui semble poser un problème, c'est que c'est un salaire pour un travail, alors que les autres salaires, c'est pas des salaires pour le travail. Voilà, excusez-moi pour le temps que ça m'a pris.
Merci. On va suivre donc avec Jean-Hugues Arnoux et Philippe Clark pour justement, je pense qu'on va continuer à ouvrir cette question de est-ce que la philosophie vient pour déstabiliser, pour clarifier, pour compliquer, pour coacher ou pour donner des conseils.
Oui, donc moi, rapidement, en effet, pour dire comment j'en suis venu là, mais c'est rapide. Eh bien, bon, j'ai une formation classique de philosophie à Grenoble, et c'est vrai, j'étais satisfait de ma formation académique, mais j'ai toujours trouvé que la philosophie devait être plus qu'une simple formation académique, hein, qu'elle faut nous inviter aussi à changer notre façon de vivre et de vivre avec les autres, ainsi de suite. Et bon, j'ai été professeur de philosophie, après j'ai travaillé au Collège Champité, à la fois comme prof de philo et comme responsable académique. Et puis il y a 6 ans ou 7 ans, je tombais sur un article dans Libération où il était consacré à une femme qui, à Strasbourg, avait ouvert un cabinet de consultation philosophique. Et je tombais des nues. Je disais, ben, je ne savais pas si ça existe, tout ça. Je me suis documenté, j'ai bien réfléchi. Et puis à 47 ans, je me dis, ben, c'est le moment ou jamais, si je veux changer de travail, et bien de me lancer là-bas dedans. Et c'est comme ça, au fond, ben, que j'ai créé, en octobre 2012, mon cabinet de consultation philosophique. Et c'est une activité que je propose, je me veux généraliste. Donc, autant s'adressant aux particuliers, qu'aux entreprises, qu'aux institutions. Et dans le cas d'entreprise, là, je vous rejoins, c'est qu'on passe un temps fou, quand même, à travailler par jour. Donc, le travail est un moment important de la vie. Et je pense qu'il y a un effort, une demande pour certaines entreprises, certains employés ou cadres, de réfléchir sur ça. Quel est au fond le sens du travail, hein? Quelle est sa signification? Et à partir de là, il y a aussi notre demande, qui est une demande peut-être de vivre autrement le travail. Moi, ce qui me frappe, parce que j'ai suivi aussi des formations dans le cadre de mon travail, c'est que dans le travail confucien, il y a deux choses. Il y a la tâche qu'on a à accomplir et les relations, les gens avec qui on le fait. Et la formation s'adressant aux relations est pensée le plus souvent comme la formation s'adressant à la tâche. C'est-à-dire, on cherche simplement à donner des outils aux gens. Et les outils qu'on donne, si les personnes n'arrivent pas à se les approprier, ça ne leur sert strictement à rien. Pour être bref, je ne veux pas trop monopoliser la parole, je me souviens avoir suivi une formation sur comment mener un entretien. Et j'ai une collègue qui l'a suivi aussi, elle me dit c'est affreux parce que maintenant quand je reçois un parent et qui a suivi cette formation, eh bien je sais du début jusqu'à la fin comment ça va se dérouler. Parce que chacun manipule ses outils, bonjour monsieur, au revoir monsieur, ainsi de suite. Et au fond, au lieu que les choses se disent, elles sont empêchées d'être dites parce que justement il y a ce cadre qui fait que les personnes ne sont pas appropriées ces outils. Et je pense que dans le domaine de la formation à l'entreprise, les sciences humaines, notamment la psychologie, est très présente, et c'est dommage que la philosophie ne soit pas. Parce qu'elle apporte une réflexion générale sur le vécu, sur l'existence, qui fait que les gens qui travaillent peuvent en tirer profit. Et dans mes contacts avec l'entreprise, je pense notamment à Nespresso ou Philippe Maurice avec lesquels j'ai eu des contacts, c'est vrai que, et là je vous rejoins aussi, il y a une... À la fois, on passe beaucoup de temps à travailler, en même temps, il y a aussi un management qui parfois est terrible. Il y a des gens qui craquent, hein, le burn-out, ainsi de suite. Quand on lit le rapport des psychologues ou des maçons du travail, depuis 20 ans, 30 ans, il y a une augmentation très forte de gens qui n'arrivent pas à tenir sur le travail. Ils sont fatigués, ils doivent prendre des médicaments pour tenir, c'est quand même pas très normal. Et je pense qu'il y a une réflexion sur comment vivre le travail d'entreprise autrement. Et d'ailleurs, aux États-Unis, il y a des sites qui existent où on conseille aux gens les bonnes entreprises. Non seulement où on est bien payé, on a une bonne assurance maladie, et ainsi de suite, mais aussi où le climat du travail est un climat, je dirais, plus heureux. Quoi. Hein, plus, voilà. Donc, il y a ce côté-là, un peu coaching, qui pourrait en effet être utilisé. Et puis enfin, il y a aussi le domaine de l'éthique. Je crois que ce qui était très fort au 19e siècle jusqu'aux années 50-60, quoique la Suisse semble plus protégée que la France, c'était la responsabilité sociale de l'entreprise. Parfois, il y avait une grande entreprise qui faisait vivre toute une région. Hein. Et le patron était un peu paternaliste, mais il jouait un certain rôle social. Et j'ai l'impression qu'avec le temps, ce rôle social a eu tendance à un peu disparaître. Et aujourd'hui, il revient, en quelque sorte, soit sous la responsabilité écologique, soit sous la responsabilité politique. Et je pense que là, la philosophie a aussi son mot à dire dans l'accompagnement. Alors, pour terminer, moi, ce que je voudrais dire, c'est que quand j'aborde la philosophie au monde du travail, je ne me présente pas comme quelqu'un qui a un savoir et les autres qui seraient, en gros, mes élèves ou ainsi de suite. C'est vraiment un travail d'accompagnement. Donc, je mets aux personnes un service qui leur permet un accompagnement, au fond, de mieux réfléchir ce qu'ils sont en train de faire pour finalement mieux le vivre. Voilà, en gros, globalement, mon champ d'action.
Merci, merci Joël. Philippe, là.
Alors le projet Socrate, lui, est né de deux désirs et d'une constatation. Le premier fut le festival de philosophie, qui fut la démonstration surprenante d'un désir d'un public non philosophe pour la philosophie. On en reparlera dans un moment avec Guy Métan, son fondateur. Le second fut celui de deux personnes animées par la même envie de faire de la société, de la philosophie hors les murs, c'est-à-dire hors de l'académie, en prise directe avec la société. Enfin, la constatation, basée sur une expérience professionnelle, que le monde du travail en était arrivé à un point où il éprouvait, et ça c'est important, un besoin de creuser le sens de ses pratiques, et par conséquent pouvait trouver dans la philosophie un allié, et ça c'était nouveau. Car jusqu'ici, la philosophie était considérée comme une activité largement désincarnée, opaque, inactuelle. Alors, comment se manifeste cette demande dans le projet Socrate ? Eh bien, par une rencontre particulièrement risquée. Parce qu'elle fait sortir autant les pratiques que la philosophie de leur zone de confort. Pour le monde du travail, inviter la philosophie, c'est permettre à un autre régime de pensée, un régime qui pourrait remettre en cause sa routine, j'aimerais presque dire sa civilité, c'est-à-dire l'ensemble des relations et des a priori qui la composent et qui est à la base de toute forme de production, à venir les modifier. Pour être plus précis encore, de permettre un niveau d'abstraction qui traîne derrière lui des stigmates de complexité, de généralité, voire de flou, de s'adresser à un public pressé, stressé, éminemment pragmatique. Le risque pour la philosophie, c'est de garder sa rigueur, c'est-à-dire de ne pas tomber dans la vulgarisation, la simplification, tout en étant affordante. Alors qu'est-ce que ça veut dire être affordant ? Eh bien, c'est la capacité d'une pensée à suggérer sa propre utilisation, ce qui revient à dire saisissable en tant que telle, sans passer par de longues explications. On voit bien ici toute la difficulté. Par exemple, lors d'un salon des ressources humaines, nous avons accosté Marc Benninger, rédacteur en chef de la revue HR Today, qui mûrissait depuis un certain temps le désir de traiter un sujet sur les valeurs. Lorsqu'on lui a dit qu'on était philosophe, il s'est tout de suite intéressé, les valeurs lui apparaissant particulièrement appropriées au discours philosophique. On s'est ensuite rencontrés pour décrocher le projet, à la suite de quoi il nous a confié le dossier de son magazine. Ce qui n'est pas rien, puisque le dossier constitue le noyau du magazine et donc met en jeu sa réputation et la sagacité de son rédacteur. Son intuition était la suivante. La philosophie semblait à la fois à la bonne distance pour traiter de ce sujet, mais aussi renseignée et capable d'élaboration. De notre côté, il était évident que nous devions respecter un certain nombre de règles, à savoir un discours fluide, sans jargon, précis et rigoureux, que nous devions effectuer le déplacement des problèmes propres à l'activité philosophique de manière à ce qu'ils soient compréhensibles et pertinents. Ce qu'il faut voir ici, à mon avis, c'est le décentrement et la prise de risque que nous avons dû prendre de part et d'autre au moment où nous acceptions d'entrer en matière, lui comme nous. Lui de faire rentrer un discours au sein d'une pratique codifiée, nous d'en créer un qui soit convaincant, judicieux et perspicace. Il faut donc rester rigoureux et affordant, mais il y a plus. Il faut travailler à deux. La pensée philosophique, ici, ne s'élabore pas en chambre, seule, en partant de concepts, déjà identifiés et largement sédimentés, comme peuvent être ceux de la nature, la culture, du phénomène, de l'être, etc. La création de concepts se fait donc à l'intérieur d'une relation. Il faut donc prendre en compte l'histoire particulière et le désir de l'autre, ce qui est d'autant plus difficile que ce désir, cet appétit est en train de se faire, qui n'est pas encore réalisé, qui n'est pas encore balisé, voire même qui cherche son expression. C'est encore plus difficile car ce désir aura des répercussions directes sur la vie des gens. L'histoire du projet Socrate est donc celle d'un dialogue, mais d'un dialogue qui doit déboucher sur quelque chose qui n'est pas encore complètement pensé et qui accepte d'accueillir quelque chose qui n'est pas encore, qui pourrait être surprenant. Surprise du côté des pratiques par l'intrusion dans son champ d'action d'une pensée étrangère, surprise du côté de la philosophie qui va découvrir de nouveaux objets qu'il faudra bien élaborer. Cet aspect éminemment relationnel peut aussi se définir comme une éthique de la prise en charge. Ici, nous sommes d'abord responsables de l'attention qui nous est accordée, qui nous est offerte. Parler de philosophie dans le monde du travail, c'est un cadeau qui implique une réciproque. Le succès ou l'échec de notre intervention se mesurera donc à l'aune des effets que nous pourrons produire et qu'on peut appeler saisie, enthousiasme, inspiration, appel à l'action, respiration, vitalité. Par exemple, nous avons eu la chance de rencontrer Daniel Hoffman, qui dirige une société de construction métallique, ainsi que l'Association genevoise des métallistes, qui nous a invités à prendre la parole dans le cadre de son Assemblée générale annuelle. Pour ce faire, nous sommes allés le voir dans son entreprise, avons largement sondé sa vision, son questionnement, afin de saisir les enjeux qui lui étaient propres. De cet échange est née une problématique qui était celle de la fragilité et de l'incertitude, de la navigation à vue et de l'anxiété qu'elle induit pour celui qui est responsable de nourrir des gens, et donc une réflexion sur la nécessité du choix qui prend ici l'aspect d'une différence entre ce qui est urgent et ce qui est important. Qu'est-ce que l'urgence? Qu'est-ce que l'importance? Quel est leur rapport? Comment les faire jouer ensemble afin qu'ils permettent une redistribution des énergies et des types d'activités tout en ne mettant pas en danger l'édifice? Ce qui revient donc à définir les relations entre théorie et pratique, à montrer à quel point elles s'entreprennent et se stimulent mutuellement, à quel point les deux activités fabriquent ensemble ce que nous appelons le réel, et sans quoi on se trouverait prisonnier des ritournelles, des routines, des idéologies dominantes. La révolution se fait ici sur du velours. En fait, pour citer Bruno Latour, elle a déjà eu lieu. Il s'agit simplement maintenant de travailler.
Merci, merci à tous. On avait préparé pour un deuxième round de discussion générale toute une série de questions qui ont fait dessiner un peu un terrain et qui en fait ont texturé toutes vos interventions et donc j'imagine vont texturer aussi vos interventions à vous. Donc je vous propose qu'on passe directement la parole et puis ensuite vers qui est plus à même de répondre, on a plus envie. Voilà, on a un bon quart d'heure devant nous. Oui, monsieur.
Il y a un petit micro
qui est en panne.
Oui, il faut le fermer derrière.
Oui, c'est fait, mais il n'y a plus
de pile. Faut le tenir dans l'autre sens.
On voit aujourd'hui une McDonaldisation des pratiques managériales, hein, avec des process, avec des normes. De l'autre côté, on voit apparaître tout un phénomène de psychopapouille psychologique avec des gens plus ou moins formés. Donc on a un peu cet antagonisme entre l'hyper-pragmatisme et puis la thérapie parfois intéressante, mais parfois aussi légère. Et la question que je me pose, c'est avec l'arrivée de la philosophie, est-ce qu'il y a possibilité d'un mariage à trois?
Quelqu'un, moi j'aurais envie de donner la parole à Tristan. Est-ce que quelqu'un veut...
Bon, merci. Disons, le mariage, ça nécessite le consentement des parties concernées. Et précisément là, je pense qu'il y a, et probablement que la philo aussi a fait son entrée dans l'entreprise ou dans le questionnement sur le lieu de travail, elle permettra aux personnes concernées, c'est-à-dire ceux qui travaillent, de choisir s'ils veulent plutôt une discussion psychologique, s'ils souffrent des normes qu'on leur a fait subir de manière stupide. Donc, moi, ce que je trouve qu'est l'apport de capital, c'est un discernement. Et puis, une fois que le discernement est là, on peut choisir que ce soit un outil, que ce soit une formation, que ce soit une consultation. Moi, je la vois beaucoup plus en amont, la philosophie en entreprise. Et puis, elle a un côté, ce côté recul qui fait que les gens respirent et qu'ils voient vers quoi aller. Vous parlez tout à l'heure de stress en parlant Nespresso et puis Philippe Maurice, mais c'est pas dommage de voir des gens qui s'enlèvent la vie pour la fabrication de produits qui ne sont pas indispensables à la vie. On peut vivre sans espresso, peut-être moins bien, on peut vivre sans fumer, peut-être moins bien, mais on peut. Alors là, peut-être que la philosophie pose des questions, et c'est pas la psychologie qui va les poser ces questions, c'est la philosophie. C'est pas les processus non plus, on peut optimiser des processus tout en vivant malheureux.
Si je peux juste dire un mot, vous parlez de mariage à trois, vous parlez de mariage, je crois que la plus grande difficulté, le plus grand obstacle pour une rencontre entre le monde économique, le monde des entreprises, le monde du management et la philosophie, c'est clairement les clichés, les préjugés que les uns portent pour les autres. S'agissant du monde de l'économie vis-à-vis de la philosophie, je ne vous fais pas un dessin, c'est de l'académisme, c'est une bande de branleurs qui tournent en rond et qui n'ont aucun sens des réalités. Et s'agissant de l'inverse, eh bien c'est un petit peu comme vous venez de le dire, c'est une schématisation extrême, c'est une caricature continuelle de l'économie et des entreprises qui ignorent fondamentalement l'extraordinaire diversité des approches, des mentalités, des pratiques et des théories aussi dans le monde des entreprises. Et c'est pas du tout aussi uniforme et aussi typé que ce que l'on entend en général et ce que l'on lit en général dans les médias et ce que le public s'imagine en général. Je pense que c'est le principal obstacle au mariage.
Alors moi j'aimerais juste rajouter que pour moi le principal obstacle au mariage, c'est la routine. C'est qu'une entreprise ne peut pas fonctionner sans routine. La routine est à la base même de sa capacité de production. Or, la routine, c'est une boîte noire. C'est quelque chose qui a été installé et qui fonctionne, qui produit des effets qu'on ne remet plus en question. Or, nous, avec la philosophie, on arrive avec un questionnement. Et vous voyez là qu'il va y avoir quelque chose qui sera sans arrêt une confrontation et qui ne pourra trouver, à mon avis, une solution que dans la construction d'objets qui sont affordants, utiles. Ceux qui peuvent immédiatement servir.
Michel.
Oui, dans toute discussion avec mon chieur, je vais le faire assez rapidement. J'essaye d'être bref. Quand je vous entends, je vois évidemment tout un discours. Et j'entends efficacité, j'entends heureux, j'entends toutes sortes de choses comme ça. J'entends pas beaucoup. J'entends vraiment pas beaucoup une remise en question de ce que sont les rapports de travail aujourd'hui dans notre société. Alors pour le dire caricaturalement, n'êtes-vous pas clairement des agents du capitalisme, pour faire joli? Et moi, si le rôle du philosophe est simplement, au lieu que les personnes se suicident, font des burn-out, à cause de quoi? Mais dites-moi à cause de quoi? Si moi, en tant que philosophe, je suis juste là pour essayer de les rendre heureux, pour pas qu'ils fassent de burn-out, je trouve ça dégueulasse.
Bernard. Attendez, parce que ma question est exactement dans ce sens-là. Au fond, on avait historiquement, autrefois, la philosophia antila théologiae, la philosophie servante de la théologie. Est-ce que le visage que vous nous proposez n'est pas en train d'être celui de la philosophie antila profiti, servante du profit? C'est-à-dire, la finalité de l'entreprise reste, qu'on le veuille ou non, le profit. Et en plus, vous vous intéressez surtout à des cadres, vous, dans vos formations, et pas à des ouvriers de base. Et donc, est-ce que vous n'êtes pas des agents pour améliorer l'exploitation du personnel de base qui, lui, n'a pas accès à ces cures de philosophie?
Merci. J'aimerais bien répondre, c'est parce que je voulais intervenir avant que vous posiez les questions. Non, je voulais intervenir avant que vous posiez la question parce qu'il me semble que vous touchez le point essentiel. Parce que la philosophie doit être libre. Si la philosophie ou une démarche philosophique, je vais le mettre comme ça, la philosophie sert à rien. Fondamentalement, elle ne sert à rien, puisque vous et moi, nous ne servons à rien. Je remets autrement, notre valeur, nous n'avons pas une valeur parce que nous sommes utiles. Analogiquement, la philosophie, c'est une prise de distance pour réfléchir sur un certain nombre d'objets, théoriques ou autre chose, mais donc ils ne doivent pas être instrumentalisés
en vue de la praxis. Je vous raconte simplement une histoire. Je suis intervenu, on m'a demandé d'intervenir avec un de mes collègues dans une des grandes entreprises internationales, je tairai le nom, pour faire de la formation avec des managers par rapport à une structure de valeur. Et lorsqu'après discussion, durant la discussion, nous avons senti qu'il ne fallait pas réfléchir, mais qu'il fallait soi-disant réfléchir pour pouvoir faire passer un message que la direction avait décidé. Nous avons refusé. Nous avons refusé très catégoriquement parce qu'à un moment donné, le cœur même de la philosophie, me semble-t-il, on perd son souffle. Ce que je veux dire par là même, c'est que la philosophie, si elle a quelque chose à apporter, le mariage à trois, c'est d'être d'accord de se laisser déstabiliser. Et où les choses ne sont pas déjà marchandisées. Et je pense que ce point-là, pour moi, il est extrêmement capital. Voilà.
On repasse le point.
Pas d'autres réponses.
Attends, moi je mais sur le j'ai envie de répondre aussi. Alors je suis pas du tout étonné de votre réaction de Schiller, comme vous dites. J'étais surtout étonné que ça n'avait pas eu lieu avant. Et voilà. Et je suis intarissable sur ce genre de questions. Je vais essayer d'être court. La première chose à dire, c'est que la philosophie sert aussi et surtout à relativiser un certain nombre de choses. Lorsque je vous entends et lorsque j'entends toute la journée, toutes les semaines et toute l'année ce genre de propos, ça me renvoie toujours à une question fondamentale. Nous vivons apparemment, à vous entendre, dans le monde le plus épouvantable de l'histoire de l'humanité, avec des régiments entiers d'agents du capital
qui...
Non. Je suis d'accord.
J'ai parlé de ça.
Voilà. C'est comme ça que je l'interprète. Voilà. La question d'agents du capital et tous les gens qui auraient une réflexion autre seraient simplement des agents du capital. Moi, la question à laquelle ça me renvoie toujours, c'est si c'était vraiment le cas, comment expliquer, sachant ce qu'on sait sur l'histoire, comment expliquer que les gens ne soient pas dans la rue continuellement et que la révolution n'ait pas eu lieu depuis longtemps et n'ait pas lieu tous les jours. Il y a quelque chose dans cette opposition continuelle d'idéologie et de concepts qui, à mon avis, ne joue pas et ne correspond pas à la réalité, parce que sinon, ça ne tiendrait pas encore 10 minutes.
Moi, simplement pour continuer un peu, mais c'est très rapide, hein. Je pense que vous pouvez m'entendre. Simplement, moi, là, je suis un peu étonné, c'est que d'abord, je ne suis pas d'accord. La philosophie n'est pas qu'un discours qui sert à rien, elle a une fonction proprement utile. Et si on avait dit ça à des philosophes d'Antiquité, ils auraient été étonnés. Et je pense à Diogène, hein, philosophe cynique, on lui reprochait de fréquenter les prostituées, et lui, il a répondu, le soleil, la rayon du soleil va bien jusqu'dans les latrines, donc les toilettes, il ne s'essouille pas. Et je pense que la philosophie doit, au contraire, oser risquer une action dans la société.
Mais c'est pas ce que j'ai dit.
Non, mais peut-être. Parce que j'ai apprécié ça. Et puis, le grand changement, c'est qu'on a vécu, à partir du XVIIIe siècle et de la Révolution française, l'idée qu'on allait changer la société par le haut. Et c'était la perspective révolutionnaire. On change la société, mais globalement, de fond en comble. Et aujourd'hui, on est sorti de cela, et on a la chance de se dire, le philosophe, c'est plus le génie qui va concevoir la nouvelle société, mais c'est l'artisan, celui qui œuvre dans le local. Et moi, ça ne me dérange pas, en tant que philosophe, d'œuvrer dans le local et non pas dans le global. Et je pense qu'on est plus pertinent, mais on risque davantage de changer le réel. Et ça, je crois que c'est assez important. Et en revanche, l'important, c'est que même si je travaille pour une entreprise, et là je vous rejoins, il faut absolument conserver son indépendance. Parce qu'une philosophie qui n'est pas libre est une philosophie qui n'existe pas, tout bonnement.
Voilà. On va prendre une autre question dans la salle et puis ensuite...
Attends.
Je peux prendre la parole?
Oui.
C'est juste pour remettre... J'ai trouvé super pertinent ce que vous dites et c'est vachement intéressant. Je vais parler du monde...
Ah, c'est
l'effet de serre.
Je fais partie du monde de la santé au travail. Je n'ai pas entendu le mot santé. Ça me fait un petit peu mal. Parce que tout ce que vous avez dit là, c'est pertinent, le sens du travail, l'éthique et tout ça, mais c'est quoi? C'est les facteurs de santé. Et santé au travail, c'est santé de la société aussi. Donc, moi, je trouve que c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas des liens que vous devriez créer entre les professionnels de la santé au travail, qui sont des gens au front, et puis qui se heurtent à ces problèmes, non seulement des travailleurs, mais aussi des managers, qui perdent le sens au travail jusqu'à se suicider, et que vous arriviez avec vos considérations philosophiques extrêmement pertinentes et certainement constructives pour l'individu. Et je pense que là, il y a un mariage qu'il faut faire. Et qu'il faut arrêter de réfléchir dans nos coins, dans nos petites cellules un petit peu ghetto, il faut le dire. Nous aussi, la santé au travail, on est dans un ghetto. On est dans un ghetto juridico-politique. Parce que, je ne sais pas si vous le savez, mais en Suisse, la santé au travail, c'est uniquement des lois. Mais la santé au travail, c'est un problème de santé publique. Or, en Suisse, ce n'est pas fini de parler de santé au travail dans la santé publique. Je ne veux pas faire un discours là-dessus, mais j'ai beaucoup de preuves. Et ça, c'est extrêmement important. Il faut décloisonner. Et c'est un mot-clé que je voulais laisser ici, et puis je vais arrêter de faire un discours parce que je m'arrête pour des heures.
Moi, j'avais juste envie de dire aussi que, déjà rien que ce qu'on a pu entendre aujourd'hui des différentes interventions, je crois que, moi en tout cas, j'ai tout sauf l'image de philosophe instrumentalisé par le capitalisme. Alors, je pourrais parler de mon expérience personnelle en tant que philosophe impliqué dans le management depuis 15 ans, mais je crois que Tristan a aussi son histoire. Chacun de nous a une histoire. Le format de la conférence ou de ce moment nous permet de dire certaines choses. J'entends, je crois qu'on ne peut pas être là aujourd'hui ici parmi les gens qui sont à cette table sans avoir fait soi-même le questionnement et sans être soi-même remis en question. Et les bouleversements que chacun vit dans le domaine de la santé ou dans d'autres domaines, on les vit tous. Moi, j'ai travaillé dans les associations sans but lucratif. Il y a les mêmes problématiques, les mêmes contraintes, les mêmes enjeux que dans une société capitaliste. Donc, je crois qu'il faut aussi bien s'entendre. On est tous à réfléchir sur les mêmes enjeux. Et voilà, j'entends, le cadre ne permet pas de parler de chaque cas particulier.
Mais, oui, si vous permettez, juste un mot pour dire que la critique radicale et la remise en cause radicale du capitalisme et de la civilisation dans laquelle nous vivons fait évidemment complètement partie de n'importe quelle philosophie, surtout de n'importe quelle philosophie de l'histoire. Et je regrette que ça ne prenne pas beaucoup plus de place dans la pensée et dans la doxa et dans les débats publics. Ce que je regrette surtout, c'est que la manière dont c'est traité est complètement figé depuis des décennies. C'est une espèce de guerre de tranchées qui ne bouge pas, avec les mêmes confrontations bloquées et la même absence complète de philosophie de remise en cause de ce dont on parle, et surtout une absence totale de philosophie de l'histoire. Le dernier bouquin de philosophie de l'histoire marquant qui est sorti a été balayé par la critique, c'est Fukuyama, la fin de l'histoire, et c'était la fin dans le sens de finalité. C'était une philosophie, une espèce de philosophie hégélienne, c'était un truc incroyable, adapté au XXe siècle. Ça a été complètement balayé, alors qu'il y avait un certain nombre de réflexions. On n'était pas du tout obligé d'être d'accord, mais il y a une incapacité aujourd'hui dans le monde dans lequel nous sommes d'avoir une réflexion et une philosophie de l'histoire. Et c'est-à-dire de quel est le sens du monde capitaliste dans lequel nous vivons, quand est-ce qu'il a commencé, ça on le sait, quand est-ce qu'il va finir et sous quelle forme, ça c'est des questions qui intéressent tout le monde et qui n'arrivent pas à entrer dans le débat intellectuel.
Merci. Je crois que malheureusement on va devoir s'interrompre puisque on va suivre dans une dizaine de minutes avec Guy Mettan qui vient de nous rejoindre et que je salue sur le festival de philosophie. Et donc je remercie d'abord chaleureusement tous les intervenants qui ont pris le risque de venir se confronter à ça et vous pour vos questions énergiques. Et je vous rappelle donc qu'après l'entretien avec Guy Mettan, il y aura la possibilité de se restaurer directement ici à la maison de quartier avec un menu que Michel va vous dévoiler à l'instant.
Voilà, donc profitez de rester aussi avec nous, c'est aussi une manière de continuer la discussion et la confrontation évidemment. Curry de dinde avec du riz basmati pour 10 francs, avec en plus le sourire des gens de la maison. Peut-être même un philosophe récapitulé dans les bouches.
Et donc, la suite, hein, vous suivez le programme, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour discuter.